Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Taillet pour Nick, la radio.
La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise ? À la lumière du stroboscope, les chats deviennent rose, bleu, vert, violet, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités, un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
C'est un monde qui s'ouvre à toi et t'as l'impression que t'es à ça de rencontrer n'importe qui, de qui t'arrive des choses dingues, de vivre des histoires d'amour, enfin voilà, t'as l'impression que c'est une autre vie qui arrive et ça c'est assez fou.
Sur Instagram, ces danses complètement démantibulées et détraquées sont libératrices. Sur les catwalks de la Fashion Week, sa démarche droite et fière de femme enceinte est émancipatrice. Et derrière les platines, l'énergie de ses sept solaires et groovy est communicative. La parisienne Piu Piu est une touche à tout, à la fois DJ, fashionista, animatrice radio sur Rinsou Radio Nova, entrepreneuse féministe et instigatrice de sororité. Piu Piu n'a pas délaissé les DJ Booths, mais elle s'est éloignée d'une carrière solo pour privilégier le collectif. Avec son agence de talent Good Sisters, elle conseille aujourd'hui des femmes artistes pour que leur carrière soit une fête. Exploration du sens de la teuf d'un oiseau de la night. Piu Piu, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois que t'as fait la fête, c'était quand ?
C'était samedi soir à l'anniversaire d'un pote. Et c'était très sympa. Même s'il avait une playlist douteuse, pris d'assaut, on va dire, par Gilbert Montagnier. Et du coup, il nous a mis dans la sauce à cause de ça. Donc, écoute, normalement, c'est deux genres d'ambiance que j'arrive pas à suivre. Mais là, l'alcool aidant, c'était très sympa. Sous l'équateur
du blues. Donc, c'était une soirée d'appart.
C'était complètement une soirée d'appart.
Et tu kiffes les soirées d'appart de façon générale ?
Franchement, j'aime bien. Et je crois de plus en plus. Parce que... au moins, il y a le truc où t'es pas surpris que le son soit pas aussi fort que tu le voudrais. Et puis, c'est une ambiance rigolote. Ouais, c'est un peu détente, j'aime bien. Non, en vrai, pour moi, pour danser, pour m'amuser et tout, je préfère le club de dingue. Surtout pour danser et pour la musique. Après, pour les amis, les soirées d'appart, c'est marrant. Mais c'est pas... c'est deux concepts, quoi. C'est comme si tu vas au McDo... et tu vas au resto, tu vois.
Et c'est important pour toi la fête dans ta vie ?
Je pense que la fête c'est essentiel pour ma vie. Dès que j'étais assez jeune en fait, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi parce que ça a toujours été pour moi un endroit de liberté. Peut-être que maintenant que j'ai fait beaucoup la fête, ça l'est moins parce que je vois plus les codes. Quand on est jeune et qu'on découvre la fête, en tout cas moi, je ressentais plus la liberté d'être soi-même, de s'habiller comme on voulait, le côté justement libre de code. Et aujourd'hui, surtout en y travaillant aussi, et en y ayant travaillé pendant longtemps, je crois que je vois plus les dessous et du coup, il faut que ce soit, que la musique soit vraiment bien, que le son soit vraiment bien pour que j'arrive à m'y ressentir libre. Et puis je trouve aussi que en France, aujourd'hui, on s'habille vachement moins pour aller faire la fête que quand moi j'étais plus jeune. Et ça fait partie pour moi des choses qui sont passionnantes dans la fête. Et je trouve que c'est dommage parce que ça enlève une forme de liberté d'expression. Et j'ai hâte qu'on refasse la fête hyper habillée. Alors évidemment, il reste des endroits hein, où on fait la fête en s'habillant beaucoup, qui sont des lieux, on va dire, qui sont plutôt ceux de la culture ballroom, etc. Mais on va dire dans une fête simple, aléatoire, d'un mercredi soir, pour s'habiller aujourd'hui, t'as l'air un peu ridicule et je trouve c'est un peu dommage.
C'est quoi l'importance du vêtement dans une soirée pour toi ? C'est quoi, c'est l'idée du costume, de se transformer ?
Ouais, je pense que c'est aussi justement d'oser s'habiller d'une manière dans laquelle tu t'habillerais jamais la journée. C'est créer comme une espèce de bulle de ce moment où tu te changes pour t'habiller, pour sortir, où tu mets des choses plus extravagantes, peut-être plus flamboyantes que ce que tu ne mettrais la journée. Et que bah, c'est vrai que je trouve ça dommage, moi, de sortir en jean.
Et tu penses que le fait d'avoir un public qui vient avec des vêtements plus extravagants, plus flamboyants, comme tu dis, ça rend la fête elle-même plus extravagante et que si on est en jean et en hoodie, ça peut pas être fou.
Carrément, je pense que ça rend la fête plus flamboyante parce que soi-même, on est dans un état où on est prêt à briller. Quand on est en hoodie, en jean, on a envie de se cacher. Alors c'est aussi lié à un style de musique qui est arrivé à un moment donné, la techno, le côté hangar et tout ça, qui est un truc super important dans la musique. Et puis du coup, à un moment donné, on s'est habillé de cette manière-là. Et c'était un statement aussi, parce que c'était pas le cas avant. Donc ça a été aussi un statement tout d'un coup, en fait, de sortir de chez soi en jogging avec une banane et tout ça, et des baskets et tout. Mais quelque part, ça t'amène à te glisser dans une meute, dans une horde. Et c'est intéressant aussi de vivre les choses comme ça, de manière collective et effacée, en essayant de ne plus exister en tant qu'individu. Mais je trouve que c'est aussi intéressant. Il se passe autre chose, en fait, quand tu t'habilles vraiment pour faire la fête. T'as envie d'exprimer autre chose de toi.
On va revenir un peu aux origines. C'était d'origine uruguayenne, ouais, semble-t-il. J'aimerais bien que tu nous racontes justement dans quel milieu t'as grandi et est-ce qu'on faisait la fête chez toi ? Est-ce qu'on t'a inculqué ça ?
Ah mais carrément qu'on faisait la fête chez moi. Moi, mon père, il est musicien. Il l'est toujours d'ailleurs. Mais mes deux parents sont uruguayens. Ils ont fui la dictature en Uruguay et en Argentine. Et ils sont venus en France en bateau et c'était des hippies. Ils habitaient en communauté. Quand j'ai grandi, ils venaient de partir de la communauté. Mais elle était toujours très soudée. Et du coup, tous les week-ends, on se regroupait pour écouter de la musique. Tout le monde jouait des instruments, etc. On faisait des grillades, on mangeait des empanadas. Et il y avait un truc très musical, toujours dans notre culture uruguayenne. Ninguno tiene derecho, chacharara, de pedirme que me excuses a zaraza, por la forma en que les hablo, bla, 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 tanto me importa un letrao, como el que come salteao. Et puis, c'est aussi la culture du candombe. Donc, il y avait beaucoup de tambours, de percussions, toujours partout, qui étaient aussi liés à une espèce d'éveil spirituel, si tu veux. Très liés aussi à une forme de conscience de la colonisation des Blancs en Amérique du Sud. Et ensuite, beaucoup de musique brésilienne, de musique uruguayenne, bien sûr, argentine. Et puis, mon père, il faisait beaucoup de musique, il travaillait beaucoup au Café de la Danse. Alors du coup, j'allais passer beaucoup de mes mercredis après-midi au Café de la Danse, voir des répétitions de spectacles. Mes parents, ils avaient des amis qui étaient metteurs en scène, qui faisaient des costumes. Donc, j'étais tout le temps un peu dans des vibes de théâtre, quoi. Et puis, ils faisaient beaucoup la fête. Et du coup, moi, j'ai grandi avec ce truc où t'emmenais tes enfants dans une fête et puis ils s'endormaient sur un coin de canapé. Et puis, à 4h du mat', tu rentrais avec eux, quoi. C'était un peu ça. Donc, j'ai toujours un peu grandi là-dedans.
Et du coup, est-ce que par rapport à cette dimension un peu traditionnelle, cet héritage uruguayen dont tu me parlais, toi, dès le départ, tu as vraiment cette approche de la fête comme un élément de culture à part entière, en fait, vraiment comme quelque chose qui s'inscrit dans une histoire, dans une culture.
Ouais, carrément. En fait, c'est marrant parce que je pense que la fête, elle vient à plusieurs endroits. Elle vient, comme on disait, dans les lieux d'appartement, dans la rue aussi, à travers les carnavals, les fêtes de rue, etc. Et puis, le club, je l'ai découvert plus tard, quand j'avais 14 ans à peu près. Mes parents qui étaient, je pense, un peu fous, je ne sais pas.
Ce qui reste jeune, c'est plus tard, mais...
Ouais. C'est plus tard, mais c'est jeune. Et étrangement, moi, je n'ai jamais menti à mes parents. Et du coup, je leur disais que je sortais et tout, j'allais au bain-douche, je me souviens hyper bien. Et je pense que mes parents, ils étaient assez rassurés du fait que je leur dise tout. Et ils savaient que du coup, si jamais il m'arrivait un pépin, ils pouvaient venir me chercher ou quoi, parce que du coup, je leur mentais pas. Mais je me souviens des premières fois où j'étais allée là-bas et... Et alors, c'était le tout début des années 2000, tu vois, donc... J'en ai un souvenir où il y avait quand même un truc assez commercial de la fête. Mais en même temps, c'était très drôle et les gens, ils s'habillaient vachement et c'était rigolo et c'était de la house. Et... Du coup, comme je racontais que j'allais là-bas, mes deux parents, en fait, me racontaient leurs souvenirs à eux d'aller au bain. Des fêtes de Prince et des trucs dans la piscine et tout. Et je trouvais ça trop marrant, en fait, d'être... J'avais l'impression que c'était un peu un héritage familial que je continuais, en fait.
Parce que tes parents eux-mêmes fréquentaient les bains douches.
Ouais, avant, ouais. ce que je trouvais très drôle. Ils se sont mariés au New Morning, tu vois.
Ah ouais.
Ouais. Ils ont fait leur fête de mariage là-bas.
Et après, quand tu commences à faire la fête par toi-même, tu vas direct au bain douche ou il y a quand même une étape, on fait des booms
Oui, ouais. Si, il y a une étape, on fait des booms. On essaye de mettre des sonos, on s'entraîne vachement à faire les chorés, des groupes qu'on aime bien et tout.
Genre quoi ?
Ah, j'aime trop les Spice Girls. Je m'entraîne à fond à ça. C'est marrant ta question. Parce qu'en fait, effectivement, c'était des fêtes, mais je ne l'ai pas enregistré dans ma tête comme un truc de fête.
Ah ouais, pourquoi ?
Parce que c'était que des gens que je connaissais qui étaient avec moi à l'école. Et en fait, bah, peut-être c'est ça aussi. Ce que j'aime bien, c'est que tu sais pas sur qui tu vas tomber et que tu rencontres des gens. C'est marrant parce que j'avais pas enregistré ça comme un souvenir festif. Puis, je sais pas, moi, j'étais ado, j'étais pas très à l'aise et tout. Donc, j'étais un peu awkward. Enfin, je me sentais awkward en tout cas. Je sais pas si je l'étais, si ça se voyait ou quoi, mais moi, je me sentais un peu... Au quart des tout, et c'est vrai que du coup, les fêtes d'ado, j'aimais pas trop ça. Ça me stressait plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça le truc, ça me faisait okay, un peu stresser. Ouais. Tu vois, de voir les autres, toutes les histoires et tout, je sais pas, c'était pas très libérateur en tout cas. Comme,
mais alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment on passe de l'ado qui se sent au quart et qui est stressé d'aller dans une boom à j'ai 15 ans, je vais au bain douche et derrière je deviens DJ?
Bah justement parce que quand j'arrivais là-bas, j'y allais avec une copine à moi. Bah tu connais personne quoi, personne connaît ta vie, personne ne sait qu'en fait t'es à l'école. Ouais, personne ne sait en fait, donc il y a un truc où t'es tellement libre en fait. Enfin, je me suis sentie assez bully à l'école. En fait, j'étais libre là-bas d'être qui, moi, j'étais, quoi. Je m'habillais, je faisais des blagues. Et en plus, moi, j'ai pas bu pendant hyper longtemps. Donc, j'allais, je buvais du coca, quoi. Tu vois ? Et ça, c'est un truc qui est resté dans ma tête. Pour moi, la fête, c'est pas un truc destroy du tout. C'est-à-dire, quand je fais la fête, c'est pas pour me mettre à l'envers ou quoi. Ça peut arriver. Et à un moment donné, ça m'est arrivé parce qu'à un moment donné, j'ai découvert l'alcool et là, c'était pas facile. Mais sinon, pour moi, c'était vraiment un truc très joyeux, en fait. Très rencontrer des gens, écouter de la musique, observer.
Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené là-bas ?
Eh ben, franchement, je sais pas. J'ai aucune idée de comment je me suis retrouvée là-bas, pourquoi, d'où nous est venue cette idée un soir d'y aller pour la première fois. Je me souviens qu'une fois que j'y suis allée, j'ai adoré, puis qu'on était rentrés en bus et tout, enfin c'était n'importe quoi.
C'était une aventure.
C'est complètement une aventure, et puis tu vois, en ce moment je tombe grave sur des mèmes qui disent sur internet, genre, quand tu repenses à cette soirée où tu te dis mais comment est-ce que j'ai fait pour revenir chez moi en vie et tout, bon bah clairement là, je sais pas quoi. Parfois, vraiment on prenait des bus de nuit, on avait 15 piges, on rentrait à pied, enfin, c'est n'importe quoi. Je sais pas, qu'est-ce qui m'a pris?
Le hasard, un coup de tête, vous y êtes allé, on vous a laissé rentrer.
Ouais, c'est clair.
Ça aussi, quand même.
C'est clair. Après, je pense que à cette époque, il y avait aussi un truc où les gens, les videurs et tout, ils aimaient bien avoir des filles jeunes, je pense, dans les clubs, en vrai. Donc, je pense que personne n'était dupe qu'on avait 14 ou 15 ans. Mais au bout d'un moment, j'y allais tellement tout le temps que j'y allais en pyjama, du coup, tu vois. J'y allais vraiment habillée n'importe comment parce que j'y allais tout le temps et je savais que on allait me laisser rentrer et tout, tu vois. Et ça, c'est un autre truc que j'aime bien. C'est une fois que t'avais passé le stress de tu sais pas où tu vas rentrer ou pas, après tu y vas n'importe comment et tu sais que c'est un peu ta deuxième maison.
C'est un peu
quoi.
Chez toi.
Ouais. T'arrives pas à dormir. Ça peut un peu plus tard. Si j'arrivais pas à dormir, bah en fait je sortais même toute seule ou quoi. Je m'en fichais. Je savais que j'allais revoir des gens que je connaissais, que j'aimais bien. Et ça, c'était sympa aussi.
Donc, dès cette première expérience du club à 15 ans au bain-douche, une révélation, entre guillemets, genre tu te dis, ok, ça c'est un univers dans lequel je veux évoluer, dans lequel je veux vivre. Est-ce que vraiment tu te projettes tout de suite
Non, je me projette pas tout de suite. Juste, je me dis, oh, c'est génial. Et j'ai l'impression de vivre un truc extraordinaire à chaque fois. Et j'ai l'impression que à chaque fois que je sors, ma vie, elle peut changer. Ce qui est assez fou. Et il y a des films qui le racontent super bien, tu vois, le film sur Studio 54, là, avec Ryan Phillips. Il est super, ce film, parce qu'il raconte... alors, évidemment, c'était Studio 54 et tout. Mais il raconte vraiment, je trouve, ce truc des premières fois où tu sors et où c'est un monde qui s'ouvre à toi et t'as l'impression que t'es à ça de rencontrer n'importe qui, de qui t'arrive des choses dingues, de vivre des histoires d'amour, enfin, voilà. T'as l'impression que c'est une autre vie qui arrive. Et ça, c'est assez fou.
Est-ce que ton frère a joué un rôle aussi dans ton rapport à la musique, puisque ton frère, c'est Valentino Mora, qui est un DJ de techno qui avait commencé à se faire connaître dans les années 2000-2010 sous le nom de French Fries.
Ouais.
Est-ce que c'est un grand frère ?
Un petit frère.
Un petit frère.
Ouais, figure-toi, c'est mon petit frère. Et en fait, c'est trop marrant. Parce qu'à un moment donné, donc j'avais commencé à aller beaucoup à la Favela Chic, qui à l'époque était hyper, hyper cool et tout. Et j'ai commencé à bosser là-bas en tant que barmaid à côté de mes études. Et mon frère, qui avait à l'époque 14 ans, et ben du coup, il a commencé à venir tout le temps. Et il venait et il se mettait dans le DJ booth avec Manaré, qui a monté Rins. Et tous les deux, ils étaient déjà copains à 14 ans. Et ils étaient là, tous les deux. Et en fait, on passait du coup nos soirées en fait, ensemble. Lui, derrière le DJ booth, à apprendre comment mixer en regardant tous les gens qui venaient mixer. Et moi, en servant des verres et faire n'importe quoi. Mon frère, il a toujours su qu'il ferait de la musique parce que dès qu'il avait 5 ans... Il faisait de la musique et il était trop fort. Il s'enfermait pendant des heures au studio et tout. Et il a une détermination, un savoir-faire qui est vraiment extraordinaire. Et puis, lui, il s'est mis tout de suite dans un truc très... vraiment musique, club, etc. à cette époque-là. Alors que moi, je sortais au Baron et tout. Et lui, c'était des trucs... Évidemment, il était trop jeune. Mais au-delà même d'être jeune, ces trucs, ça ne l'intéressait pas du tout. Le côté, justement... Socialite de la night, lui, il en avait rien à foutre. Et quand il a commencé vraiment à jouer beaucoup au social et tout, et avec tout leur crew, Bambounou, Chaos in the CBD, Manaré, tout ça, je me suis rapprochée de ça grâce à eux, en fait. Parce qu'à la base, j'allais pas forcément au social, moi. J'allais plutôt au Paris-Paris et au Baron et tout. Ce qui est un autre genre de fête, le Montana et tout ça, qui est où la musique, c'était pas vraiment le truc essentiel.
C'était pas le cœur.
Pas du tout. C'était vraiment la fiesta, quoi.
Au Baron, on écoutait quoi ?
Ouais, il y avait beaucoup LCD Sound System. Et après, des vieilles chansons françaises et tout, genre Serge Gainsbourg et des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que, du coup, moi, j'avais jamais entendu ça vraiment comme musique. Parce que mes parents, n'étant pas français, j'ai jamais écouté de la musique française chez moi. Donc, en fait, tous ces trucs français, je connaissais pas. Donc, j'ai découvert à cette époque-là, tu vois, les
5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé.
Je vois ces trucs-là, je les connaissais pas du tout. Et on écoutait ça, quoi. Bah, moi, c'était pas vraiment mon délire, quoi, musical. Et là, j'ai découvert tout un autre pan musical qui était vraiment le truc de la musique électronique, vraiment quoi. Les racines en fait de la club culture, et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Quand j'ai écouté les premiers morceaux de House, ça m'a... Je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, ça m'a rappelé justement les trucs de quand j'étais petite, tu vois ce que je te disais. Ce truc de... Des choses très rythmiques, très percussionnées, mais qui en même temps un truc spirituel presque. Où ça t'emmène au-delà de toi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas ressenti avant. Pour moi, c'est devenu vraiment à ce moment-là un truc essentiel... dans ma vie, quoi, d'écouter ce genre de musique. C'est à ce moment-là où j'ai découvert ce truc d'être en communion avec les gens à travers la musique. Des morceaux comme Roy Davis Jr., Gabriel, des trucs comme ça, c'est des trucs qui pour moi étaient... C'est fou, en fait. Le gospel dans le club, vraiment, c'était des trucs qui me... Alors que je suis pas du tout religieuse de quelque forme, mais voilà, c'était des trucs qui, pour moi, étaient... Ça a été vraiment une révélation. Et puis l'histoire derrière à chaque fois, tu vois justement de ces cultures, de ces gens qui se sont battus pour faire partie de la société. C'est un truc qui m'a vachement touchée en fait.
Ouais, tout d'un coup ça donnait de la densité en fait, ouais, à la fête. Et...
De la densité.
Est-ce que tu t'intéressais aux musiques latino-américaines aussi
Bah, c'était plus le baile funk parce que si tu veux, à cette époque-là, les autres genres de musique latino-américaine, je les considérais soit comme des trucs traditionnels qu'on écoutait à la maison, soit des trucs que je trouvais vraiment, vraiment méga ringard, genre les cumbias, les trucs comme ça, qui étaient pour moi l'équivalent des tubes de l'été de M6. Donc c'était inaudible. J'écoutais beaucoup de baile funk et tout déjà, parce qu'en fait, à la favela, c'était beaucoup ce qui était joué comme musique, et beaucoup de musique brésilienne et tout. Donc en fait, c'était vraiment... moi, ce qui m'éclatait, c'était ça, quoi. C'était le baile funk, ouais, et tout, à fond. On écoutait toutes les compiles de Sandrinho et de trucs comme ça, tu vois. C'était super. Il y a un truc qui fait que justement, à travers le baile funk, je me suis reconnectée, et la culture brésilienne de manière générale, je me suis reconnectée avec ma latinité à cette époque-là, et qui aujourd'hui, je suis trop ravie d'à quel point la musique latino-américaine aujourd'hui, elle s'est réinventée, elle parle aux jeunes partout dans le monde. Je trouve que c'est hyper important, et moi aujourd'hui j'écoute vachement de musique latino, que ce soit des trucs... classique entre guillemets, ou qui réapproprie les codes de la musique classique latino-américaine, ou des trucs genre du reggaeton et tout qui me font trop rigoler, et même parfois je peux même me taper un délire de cumbia une fois ou deux, ça me fait rigoler. Mais parce qu'aujourd'hui ça sonne plus pareil, parce qu'ils le font à l'américaine, donc ça sonne plus exactement pareil. Mais il y a un truc, tu vois, moi le dernier album de Bad Bunny, je trouve qu'il est chambé. Porque yo soy un cuero y tú también. Et tu también, si el calor le da 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien, porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor le da 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien, pero dale easy, easy. Ey, que sabes que soy pisi. Ey, y enamorarme es bien fácil. Ey, pero olvidarme es difícil. Ey. Et alors, cette redécouverte de ta latinité, c'est quelque chose que tu intègres aussi, du coup, dans ton, justement, musicalement, dans ta démarche artistique ? Ouais, bah pour moi, quand j'ai commencé à mixer, ça a toujours été un truc hyper important. C'était pas forcément dans les paroles ou quoi, parce que Il y avait quelques trucs que j'aimais bien, justement de la house new-yorkaise latino, où parfois tu avais des trucs en espagnol, mais sinon c'était vraiment un truc de rythmique. Et pour moi, du coup, les percussions, elles ont toujours été très très importantes dans la musique que je jouais. Puis moi, j'ai grandi aussi à partir de ce moment-là où j'ai découvert le social. J'ai découvert aussi Rince en Angleterre et tout. Et du coup, j'écoutais beaucoup la radio en Angleterre, sur Internet, et la BBC, les émissions de Benji B, dont je porte le t-shirt aujourd'hui, Deviation et tout. Et en fait, c'est devenu la seule musique que j'écoutais vraiment, quoi. Et comment est-ce qu'on les mélange ? Parce que les Anglais, ils n'écoutent pas du tout la musique de la même manière que nous. Et pour eux, c'est beaucoup plus normal, entre guillemets, de mélanger la musique, alors que pour nous, en tout cas moi, dans la manière dont j'ai grandi, t'avais le rap et le hip-hop, la musique électronique, le rock, la chanson française, le truc, tout était très très scindé, et en fait, moi, ça m'intéressait pas du tout. Déjà parce que moi-même, ce que je fréquentais, c'était très varié, et que du coup, je pouvais aller dans plein d'endroits différents, j'étais pas fermée à un truc, puisque je pouvais commencer ma soirée dans un truc hyper socialite, machin, et puis ensuite aller dans un truc qui n'avait rien à voir, puis ensuite, plus tard, quand ça a ouvert à la concrète ou des trucs comme ça, et puis commencer dans un concert de jazz. En fait, j'ai toujours été très très ouverte sur ce que j'aimais comme musique, comme lieu, comme gens et tout, parce que c'était la curiosité qui me drivait. Et du coup, ensuite, en faisant moi de la musique, en étant DJ, ça m'intéressait de montrer l'union dans tout ça, en fait. Montrer comment est-ce que, en fait, ça n'a pas autant rien à voir que ce qu'on pense. Parfois, ça marchait pas, mais parfois, ça marche.
C'est quoi l'importance pour toi d'un lieu, mais vraiment en tant que presque le lieu comme acteur de la fête, tu vois ? Qu'est-ce qui fait qu'un club est un bon club ?
Le premier truc, c'est le son. Et je pense que c'est le gros problème à Paris. Mais c'est ça qui fait le... Je pense que ce qui fait qu'un club, c'est un bon club, c'est que le sound system, il est bien. Parce que ça fait que du coup, tu peux être submergé de musique. Et à Paris, c'est très rare parce qu'on a tellement de problèmes de voisinage, de trucs, que très souvent, le son est nul et tu t'entends parler et je trouve ça horrible. Je déteste les gens qui viennent parler quand tu es en train de danser. Je trouve ça insupportable. Après, c'est évidemment les gens qui y vont, quoi. Le fait que ce soit un rendez-vous, c'est-à-dire que les gens, ils vont y aller, peu importe quelle est la musique, parce qu'ils font confiance et ils savent que ça va être bien. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a vachement changé à Paris, parce que justement, la ville est devenue ces dernières années un lieu de collectif, et où du coup, les collectifs, ils vont dans plein de lieux différents, ce qui a empêché en fait de créer des habitudes. Et ce qui fait que après, concrète, à peu près, tu vois, bah, c'était compliqué d'aller dans un endroit sans savoir forcément ce qu'il y a. Aujourd'hui, moi, je ne m'aventurerais pas au Rex un mercredi sans avoir checké le line-up, par exemple. Parce que tu ne sais pas forcément. La crowd, ça peut être n'importe quoi. La musique, c'est bien, mais tu ne sais pas forcément. Donc, en fait, il y a un truc qui est pour moi le lieu d'habituer. Pas forcément où moi, j'ai mes habitudes, mais des lieux d'habituer, je trouve que c'est super important. Parce que ça crée une communauté, ça crée... une safeness aussi, où tu sais que les gens, ils se connaissent et tout ça, et c'est plus rare aujourd'hui, tu vois. Et du coup, pour aller à une soirée qui est bien, tu dois suivre un collectif, et du coup, tu vas pas dans un lieu, tu t'en fiches un peu du lieu presque, tu suis le collectif qui t'intéresse. Ce qui est très chouette, mais qui en même temps fait que ça tue un peu, entre guillemets, la spontanéité et la liberté. Parce que tu peux pas être à 2h du mat en te disant, ok, bah, je vais où ?
Comment toi t'expliques cette bascule et cette disparition du lieu d'habitué avec une programmation ? Tu sais ce que tu vas trouver avec, est-ce que c'est spécifique à Paris ? Est-ce que...
Je sais pas si c'est spécifique à Paris. En tout cas, à Paris, je pense que c'est vachement lié à une politique de la ville aussi, à une politique de lutter contre... À partir du moment où il y a eu le Covid, il y a eu quand même un truc où les gens qui faisaient la fête ont été très... ostracisé, mis de côté dans la société. Et du coup, le fait de ne pas avoir, je crois, hein, que le fait de ne pas avoir un entourage politique, social et tout ça autour de la club culture, bah, ça influence vachement ça.
Je voyais une vieille interview des Un Rock où tu parlais du pipi caca.
Ouais.
Voilà, dans le genre de lieu qu'on a voulu découvrir, le pipi caca qui était dans les anciennes chiottes de la RATP.
Ouais, c'était trop marrant.
T'as fréquenté un peu, toi, les afters un peu crado, les trucs comme ça.
Ouais, et en fait, ce qui était marrant, c'est que, écoute, comme je t'ai dit, c'est le moment alcoolémie. J'ai eu quelques années dans lesquelles j'ai beaucoup bu parce que je savais pas boire, du coup, puisque j'avais jamais appris vraiment à boire et tout. Et c'était n'importe quoi. Et j'ai fait n'importe quoi à cette époque-là. Donc, voilà. Et après ça, j'ai fait la fête beaucoup en étant sobre parce que j'ai passé 5 ans, 4 ans et demi, sans boire d'alcool du tout, drogue, quoi que ce soit. J'étais vraiment sobre. Mais à ce moment-là, je jouais, je faisais plein de trucs et tout. Et du coup, il m'arrivait parfois de me réveiller à les 4h ou 5h du mat. Je mettais mon réveil pour aller en after parce qu'il y avait un DJ que j'aimais bien, un truc que j'aimais bien et tout. Et j'arrivais, j'étais clairement la seule personne sobre. Ou alors, il y avait un ou deux potes qui venaient avec moi et on s'était mis dans un délire et tout. Mais c'est vrai que à partir du moment où j'ai découvert cette scène musicale de la musique électronique, c'était la musique qui gagnait sur le reste. Et où du coup, même quand je faisais des afters et tout, ben j'y allais pour la musique, quoi. Après, attention, hein, j'ai aussi fait les afters complètement crado. Il y avait un truc là qui s'appelait chez Carmen, qui n'est pas du tout le Carmen dans le 9e, qui est un Carmen éclaté vers la rue Vivienne, là, qui est un truc qui fait genre 4 mètres carrés avec un jukebox et des gens, mais d'un niveau de perdu, genre c'est incroyable. Et bon, bah, cet endroit, oui, j'y ai fini 1000 fois. Et et c'est un endroit archi crado. Bon, voilà, il y a plein d'afters que j'ai fait qui sont très rigolos et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que en général, les afters, c'était drivé par la volonté d'aller écouter de la musique quand même.
Alors, écouter de la musique et danser.
Et danser.
Tu kiffes danser ?
Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Et ça, la danse, c'était pour moi un truc, même dans ma manière de jouer de la musique, de choisir les morceaux et tout, c'est essentiel, quoi. J'ai envie de danser, quoi. J'ai envie que les gens aient envie de danser. Et moi-même, j'ai envie de danser quand je joue, sinon je me fais chier, quoi.
Et alors, tu danses comment ?
Oh, n'importe comment. Tu vois, dans la vie qu'on vit tout le temps, nous, dans notre société, on a une espèce d'injonction à faire les choses bien, à être parfait tout le temps, à être le meilleur de nous-mêmes et tout. Eh ben, moi, je trouve que c'est quand même l'endroit où on a le droit de faire n'importe quoi, de danser n'importe comment. C'est important, en fait, cette liberté-là de faire des erreurs, de pas être... On s'en fout, quoi. Voilà, j'aime bien ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, je me suis mis à danser n'importe comment et tout partout. Parce que, en fait, dès que j'étais ado, je dansais même pour aller à l'école, tu vois. Sur mon chemin, j'avais ma musique et tout, je dansais dans la rue et tout. Et je m'en foutais complètement que les gens me regardent ou pas, parce que souvent, tout le monde s'en voit. Et je me suis dit, bon, vas-y, pour annoncer mes soirées, je vais faire un truc gaulerie sur Insta, je vais juste me filmer, moi qui danse n'importe où. Je trouve ça super drôle, parce que t'as... Même maintenant où il y a TikTok qui est arrivé, où les gens font des chorés, ils se prennent la tête hyper bien, le truc et tout, je trouve ça tellement cool de... Justement, faire n'importe quoi, en fait. Tu vois, c'est pas...
C'est hyper libérateur.
Ouais, c'est ça. On s'en branle. C'est trop important d'avoir des choses qui sont pas importantes dans la vie. C'est trop important, tu vois, de faire n'importe quoi.
Du coup, c'est marrant parce que la fête pour toi et le monde de la nuit, c'est à la fois quelque chose de sérieux parce que c'est une culture, c'est des cultures, tu vois, que tu nous as expliqué, que tu as découvertes, etc. Et en même temps, c'est quelque chose qui doit jamais se prendre au sérieux non plus.
Ouais, exactement. C'est un peu le truc contradictoire. Il faut prendre au sérieux cette musique et cette culture, mais jamais se prendre au sérieux soi-même, en fait. Quelque part, je me suis jamais sentie assez légitime pour oser me prendre au sérieux de quoi que ce soit. Et c'est pas que parce que je suis une meuf que je dis ça. Et que même les phases de ma vie où j'ai énormément geeké sur cette musique, je me mettais tellement plus en position d'observatrice et d'admiration, en fait, que de participante. C'est une force parce que quelque part, ça te permet du coup de ne pas te prendre au sérieux, mais c'est aussi quelque part une faiblesse parce que du coup, je me suis non plus jamais complètement sentie partie intégrante de ça. Aussi, il y a eu un autre truc, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très, très angoissé. Et du coup, ça a fait qu'à un moment donné, j'ai dû refuser des dates en club parce que je faisais des grosses crises d'angoisse. Et je me sentais pas de prendre le train ou l'avion toute seule pour arriver, je sais pas où, à Amsterdam et tout, pour aller jouer et puis rencontrer des promoteurs que je connaissais pas et tout le monde qui était foncedé et tout. Et ça, c'était au moment où, moi, dans ma vie, j'aurais dû prendre ce chemin-là, justement, et du coup me mettre à tourner tous les week-ends et avoir une vie de DJ, on va dire, classique, entre guillemets. En fait, ça m'a tellement fait angoisser. Je me suis retrouvée parfois devant le train à la gare et devoir dire à mon booker, je suis désolée, je peux pas en fait. Je peux pas prendre ce train. Je peux pas, tu vois, vraiment faire des crises d'angoisse paniquantes qui font que... parce que c'est dur, c'est hyper dur ce milieu, c'est pas que fun. C'est aussi très très dur. Et ça, je pense que c'est un truc qui est pas souvent dit. Mais c'est quelque chose qui est hyper dur qu'on soit un mec ou une fille et tout, pour le coup, c'est, peu importe. Et pour moi, c'est un cap qui était impossible à passer, en fait. Parce que je me suis dit, OK, je ne vais pas y arriver, en fait. Donc, je m'abstiens de faire partie aussi de ce truc-là. Et du coup, ma légitimité aussi, mon manque de légitimité, plutôt, il venait aussi de là, de me dire, en fait, moi, je peux pas faire ça, en fait. Je peux pas être cette personne qui va, comme plein de DJ que j'aime et j'admire et tout, va aller faire une tournée aux États-Unis ou va aller tous les week-ends, je sais pas, dans tous les pays de l'Est et tout. Enfin, parce que moi, tous mes potes, ils faisaient ça et je me disais, mais je vais mourir, en fait. Moi, je peux pas faire ça. Je vais vraiment, je vais crever sur place. Donc, c'est impossible. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc de santé mentale, mais qui est hyper bloquant, et je pense que c'est un truc qui est hyper dur pour beaucoup de gens, même des gens qui le font.
Qu'est-ce qui t'angoissait ?
Oh, j'avais peur de faire un malaise et que personne ne me calcule, et de mourir du coup sur place. Enfin, là je dis la vérité, hein. C'est vraiment une angoisse de s'évanouir et de mourir, quoi. Et du coup, ça m'a obligée vachement à rester à Paris, tu vois. Parce que ça m'est même arrivé sur des dates en France, mais pas à Paris, tu vois, de faire ce genre de crise d'angoisse. Et c'est super dur parce qu'en plus, tu sais que tu mets les gens dans la merde et tout. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai préféré pas accepter des dates plutôt que de... Tu vois, et du coup aussi de pas faire certains trucs qui font qu'après, tu vas avoir des dates à l'inter et tout. C'est pas un truc que j'ai cherché puisque forcément... Après, je pouvais pas suivre derrière. Mais ça m'a fait de la peine, quand même.
Tu regrettes, d'une certaine manière ?
Mais je peux pas regretter, parce que je sais que je pouvais pas faire autrement. Mais je sais que ça, ma carrière de DJ, elle aurait été différente si j'avais pas eu ce problème-là. Si j'avais été capable de foncer et de faire plein de trucs et tout, je sais que ça aurait été différent. Mais je peux pas avoir de regrets, parce que je sais que moi, je ne pouvais pas faire autrement, au-delà de mon talent ou non de DJ, tu vois.
Tu disais que c'est dur pour tout le monde, que c'est un métier ou un milieu dur. Qu'est-ce qui est le plus dur ?
Je pense que c'est la solitude, vachement. T'es vachement seul, en fait. Quand tu tournes et que tu vas voir des gens et qu'il faut taper la discute avec des gens que tu ne connais pas forcément, tu passes des soirées entières avec eux, puis tu rentres tout seul à l'hôtel... Que tu sois foncedé ou non, en fait, t'es tout seul. Après, tu reprends ton avion tout seul et puis tu refais la fête et tout. Y a un truc vraiment de solitude, je pense, qui est dur. Je pense que le rapport aussi à l'alcool, aux substances, c'est un truc qui est assez isolant et qui est dur parce que si tu n'en prends pas, bah, t'es assez isolé dans le fait de ne pas en prendre. Et si tu en prends, c'est dur de ne pas être dans un engrenage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects là-dedans qui sont difficiles. Parce que pour autant, ça reste un métier. Et donc, toi, t'es aussi là pour travailler, t'es pas là que pour faire la fête. T'es aussi là pour bosser et pour que les gens kiffent et pour toi t'exprimer et puis arriver à faire ce que t'as envie de faire et emmener les gens là où tu veux les emmener et tout. Donc, il y a plein de paradigmes. Puis l'autre truc que je trouve très difficile, et moi, c'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire plein d'autres choses dans ma vie, c'est le côté très égo-trippé qu'il y a autour de la personnification des DJ. Je trouve que c'est super compliqué à gérer et tout. Et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à créer plein de projets, tu vois, autour des femmes, des autres femmes qui faisaient de la musique, où j'ai commencé à faire les journées sur RINS International du droit des femmes, des trucs comme ça, parce que j'avais envie aussi d'être dans une approche plus collective de la chose, d'être dans un truc de groupe, quoi. Moi, c'est une logique qui m'a toujours plus intéressée, le collectif, qu'un truc individuel. Et je trouve que c'est hyper important parce que ça permet une soupape aussi à un truc de merde, de l'ego, quoi. Parce que je pense que l'ego, c'est vraiment le cancer de l'humain, quoi.
Et justement, ça, c'est peut-être quelque chose qui est encore plus difficile quand on est une femme dans cet environnement-là. En tout cas, comme je disais, ça fait un moment que tu interroges la place des femmes dans la nuit, dans la musique. Il y avait eu les soirées, le collectif Girl, Girl, Girls que tu faisais avec Betty et Louise Chen.
Ouais.
Il y a Good Sisters aujourd'hui, qui est ton agence de talent. À quel moment naît cette conscience pour toi?
En fait, pour moi, c'est un truc qui a toujours existé parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, ma mère, elle était féministe et militante et tout. Elle était hyper... c'était une révolutionnaire. C'était une des raisons pour lesquelles elle est partie aussi, ma mère de l'Uruguay. Donc c'est un truc qui a toujours été... m'a été transmis. Et puis après, je pense que, comme beaucoup de femmes, malheureusement, j'ai été victime d'agressions et de choses. Et puis j'ai fait le constat aussi des inégalités, que ce soit en termes de visibilité, mais aussi de traitement des gens. Tu vois, quand j'ai commencé à mixer, c'était quand j'arrivais toute seule, c'était « Ah, t'es la meuf de qui ?» J'ai dit « Bah, je suis la meuf de moi, en fait. Enfin, je viens jouer, en fait. Ah, on pensait que t'étais la meuf d'un des gars ou que tu venais, je sais pas, faire une performance ou quoi. » Non. La manière dont les ingé-sons parlent aux filles dans les clubs, en tout cas au moment où moi j'ai commencé à mixer. Le vrai problème de légitimité aussi, parce que quand j'ai commencé à jouer avec du coup Clec-Clec et tout, c'était, il y avait très très peu de filles qui mixaient dans les milieux hétéros. C'était un peu suspect, tu vois. Et il y avait, voilà, tout un truc de légitimité qui m'a toujours posé problème, quoi.
Puis c'était, parce que du coup, tu reparles de l'époque un peu sociale aussi, Clec-Clec était le collectif et l'appel de ton frère, de French Fries. C'était une époque de cool kids, qui est ces kids qui étaient des mecs. C'était, il y avait vachement un truc de boys club, des cool gars, quoi.
Bah, c'est pour ça que Girls, 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 ça s'est appelé comme ça, parce qu'il y avait un reclaim hyper fort à être une meuf en club, qui était, et pas d'être la meuf de ou une meuf qui vient. Enfin, que ce soit pas un truc qui soit lié que à la séduction ou à quelconque logique de péchotage, tu vois. Comme tu dis, tous les cool kids étaient des gars. Et ce qui est trop bizarre, c'est que quelque part, on s'en rendait pas compte. On s'en est rendu compte vachement plus tard. C'était dur d'exister en tant que meuf à cette époque-là. Puis après, il y a plein de meufs qui sont venues me voir, de filles beaucoup plus jeunes que moi, qui sont venues me voir en me disant que ça les avait inspirées, en fait. Tous les projets que j'avais faits, et justement d'avoir mis de la lumière sur d'autres meufs et tout. Parce que aussi, je pense à cette époque-là, ça arrivait pas forcément très souvent de se sentir soutenu par des meufs que tu connaissais pas forcément. Je pense que ça leur faisait du bien aux filles plus jeunes que moi aussi, de se dire, en fait, c'est pas que des trucs fermés, quoi.
Ça manquait de sororité.
Ouais, peut-être.
Et tu trouves que les choses ont changé depuis que t'as commencé dans...
Bah, aujourd'hui, il y a quand même plein de meufs qui sont DJ, qui sont super et qui sont regardées pour ce qu'elles font et qui sont super talentueuses et c'est beaucoup plus facile pour les femmes d'émerger aussi aujourd'hui. Enfin, c'est passé par des phases nulles où les bookers appelaient et demandaient « t'as qui en fille ?» Ah, C'est devenu un truc beaucoup plus normal aujourd'hui et ça, c'est super.
T'as toujours beaucoup travaillé aussi avec le monde de la mode, en collaborant avec des créateurs et pas uniquement en tant que DJ, aussi en défilant, etc. Moi, je me demandais, historiquement, la mode a toujours été très liée au monde de la fête. Et voilà, je parlais des bains-douches, mais le palace... Pourquoi la fête a ce lien aussi fort avec la mode, ou inversement, pourquoi la mode a ce lien avec le monde de la nuit ?
Mais tu vois, il y a deux réponses. Alors, il y a la première réponse qui est celle un peu qui était en fait le début de cet entretien, où on parlait de l'importance de la flamboyance et tout, et de l'individualité, de la culture aussi underground aussi qui existe à travers les vêtements et tout ça. Et je pense que ça, c'est un aspect hyper important. Bon, on en a déjà parlé. Et puis, il y a l'autre aspect qui est que la mode, elle, de l'autre côté, elle s'inspire, les designers, ils s'inspirent de ce qu'ils voient, de ce qui est chouette et de la culture. Et du coup, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que ça a toujours été important pour des designers et aujourd'hui pour des marques d'être connectés à ce qui se fait de novateur, à ce qui existe pour les jeunes, pour les gens qui sont dans la culture et tout. Et la nuit, la musique, ça fait partie de la culture de manière intrinsèque parce que c'est comme ça qu'on vit la culture. On vit la culture en allant à une expo, mais on ne la vit pas de la même manière. Là, c'est un bain de culture. Parce que justement, peu importe le lieu, que ce soit des endroits hype ou pas du tout, en fait, il y a une esthétique, il y a une culture, que les gens en soient conscients ou non. C'est-à-dire, si tu vas à la Gare au Gore, ou si tu vas dans un concert de jazz, d'un petit truc, au New Morning, au Rex, dans une soirée, machin. En fait, peu importe les endroits où tu vas, les gens vont porter des vêtements qui sont ceux de leur culture, qui sont ceux du mouvement musical auquel ils appartiennent. Même si parfois, pour certains mouvements, c'est un storytelling de ne pas y apporter de l'importance, en réalité, c'est quand même très codifié. Et du coup, il y a ce truc qui est hyper important où la mode, elle, s'approprie et joue avec les codes de la musique, de la scène, de la nightlife, etc., depuis toujours. Aussi parce que la culture gay, c'est un truc qui est hyper important et qui est pour le coup, existe de manière très forte et dans la mode et dans la culture de la nuit. Et puis, il y a eu aussi un intérêt pour la culture du hip-hop et de la culture de la house et la musique électronique ces dernières années, à travers Virgil Abloh, par exemple, à travers plein de gens qui se sont vraiment méga inspirés de cette scène-là, au même titre que Eddie Slimane, quand il est arrivé chez Dior, il s'inspirait vachement des baby rockers et des trucs comme ça. Et ce sont des alliances, en fait, qui sont hyper importantes des deux côtés, parce que du côté mode, c'est hyper important d'être relevant par rapport à une culture, par rapport à un mouvement social, musical qui est en train de se passer. Mais de l'autre côté, les artistes, ils ont énormément besoin de la mode pour se raconter et aussi pour vivre, parce que c'est quand même énormément d'argent. Et que quand t'as des artistes qui sont en train d'émerger, qui vont aller faire une collab avec Louis Vuitton à l'époque de Virgil ou Céline ou whatever, bah pour eux, ça leur permet ensuite d'être quand même plus confortable et de pouvoir jouer dans des rades et dans des trucs qui sont pas ouf payés.
Ouais, ouais, à la base, il y a vraiment une forme d'interdépendance dans une recherche aussi d'avant-garde, etc. Et comme tu dis, il y a aujourd'hui une question de modèle économique pour les artistes, en fait, qui ont besoin d'être presque subventionnés par les marques pour pouvoir vivre de leur art.
Ouais. Presque mécénial, mécénique.
C'est du mécénat, en tout cas, c'est les marques qui finissent.
Oui, c'est ça. Mais c'est là où c'est... En fait, pour que ça marche, il faut que ce soit la marque qui fit, qui correspond vraiment à ce que toi, tu fais en tant qu'artiste et pas le contraire, en fait. C'est important que les artistes se sentent toujours vraiment en adéquation avec les projets et les marques avec qui ils travaillent et que ça ne soit pas justement qu'un truc économique, parce que sinon tu te perds et tu t'envoies des mauvais messages au public et t'es quand même artiste, quoi. T'es pas mannequin quand tu... Ouais. Tout le monde peut tomber dans cette, dans cet écueil.
J'allais dire, tu y vois, toi, un risque, un péril dans l'importance prise par les marques dans ce monde de la musique et de la nuit et de l'art en général.
Ouais, moi je pense que c'est une grande chance, mais en même temps, c'est un jeu très risqué. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être bien conseillé. Et c'est pour ça que j'ai monté mon agence, en fait, parce que c'est ce que je fais dans mon agence. Et c'était, pour moi, quand je l'ai monté, je me suis dit, j'ai envie de... Moi, je considère que j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie en tant qu'artiste et j'ai pas envie que d'autres les refassent. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de pouvoir permettre aux gens de savoir dire non aussi parfois et de pouvoir faire les bons choix et de, voilà, d'avoir une réflexion, pas seulement pécuniaire, justement, autour de la relation entre un artiste et une marque. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi ? Et parfois, c'est de dire non à plein de trucs. C'est hyper important. Chaque artiste, si Dieu veut, et à un moment donné, le flavor of the moment. Et c'est là où c'est hyper important. C'est que le moment où t'es cool, tu ne dois pas faire tout ce qu'on te propose. Mais tu peux pas choisir bien si tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, si tu sais pas où est-ce que tu veux aller. Et du coup, le rôle des agents, de l'entourage des artistes, c'est vraiment ça. C'est de permettre à la personne de savoir où elle veut aller pour qu'elle sache aussi que ses choix, ce sont ses choix à elle. Et que du coup, elle ne les regrette pas 5 ans plus tard. Si tu fais 1000 trucs avec des marques, bah, tu perds toute ta légitimité en tant qu'artiste. Mmh. Et ça, parfois, on l'oublie parce qu'on pense à son loyer, on pense à son truc. Et en fait, bah, il vaut mieux garder sa légitimité d'artiste que de prendre un gros chèque parfois.
Qu'est-ce qui relie, au fond, d'après toi, une fête de famille, de hippies uruguayens, une soirée au Baron dans les années 2000-2010, une teuf de cool kids au Social Club et une soirée hyper branchée de la Fashion Week en 2023?
Tu m'embouches un coin. Ouais, je pense que c'est l'autre, quoi. La curiosité d'aller vers l'autre, toujours avec joie, en fait. En fait, je crois que c'est vraiment ça qui me drive un peu tout le temps, dans tout, mais en particulier dans la fête, c'est ça, c'est l'esprit de découverte, quoi. De découverte de l'autre. Je pense que c'est un truc qui... C'est ça pour moi, la fête, tu vois. Bah, tu vois, c'est marrant, c'est ce que je te disais au début, j'ai même pas fait exprès. Mais tu vois, ce truc de fête, la fête de la boum, là, je m'en foutais parce que je découvrais personne. Ben, je pense que c'est ça. J'espère que j'aurai jamais la flemme d'être face à des gens que je connais pas, des cultures que je connais pas, de découvrir, en fait, et de se retrouver un peu... En fait, toujours être un peu nouveau dans un milieu, en fait. C'est marrant, finalement.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ?
Ben, l'ennui, hein. Franchement. La mauvaise musique. Ouais, là, ouais. Ciao. Une fois, je me suis retrouvée à une soirée blanche. Tu vois ce que c'est, les soirées blanches ?
Les dîners en blanc, là.
C'est cata. Ouais, je sais pas. Je me suis retrouvée là-bas, une soirée où tout le monde était habillé en blanc et tout, en mode fête, musique française. C'est que des trucs que j'aime pas, tu vois. Je me retrouve là-bas et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, de me dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Je suis allée m'isoler sur un caillou en attendant que ça passe. J'ai pleuré et tout. Et je me souviens, j'ai regardé la lune, j'ai appelé mon meilleur pote, je lui ai dit, je suis là-bas. C'est ça, hein, c'est trop d'entre-soi, l'ennui, c'est ça qui tue la fête.
Qu'est-ce que c'est au final ? Pour toi, que le sens de la fête, sa raison d'être.
Bah, le sens de la fête, c'est aller vers l'autre, en fait. Tu vois ? Parce que le sens de la fête, c'est pas ça. Tu vas vers les autres. Tu vas vers l'autre, tu vas vers sa culture, vers sa manière de danser, sa manière d'écouter de la musique, sa manière de se rencontrer, en fait. C'est ça, le sens de la fête.
Le Le sens de la fête est un podcast de Nicla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Quel est pour toi le morceau ultime pour faire la teuf?
Attends, c'est hyper dur. Aïe, 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 attends, j'ai besoin de me concentrer avec moi-même. Parce que j'ai l'impression, là, de choisir la musique d'enterrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Brighter Days. Brighter Days. Days. Tous les remixes et l'original. Parce que c'est un morceau que je trouve complètement transgénérationnel. Parce qu'il a été réinterprété 1000 fois. Et c'est aussi le fait qu'il est réinterprété 1000 fois dans plein de genres différents que je trouve incroyable, parce que ça raconte la force de ce morceau et la volonté de chaque génération de Club Kids de le réinterpréter. C'est en même temps un classique de la house qui raconte l'espoir qu'on a que demain soit encore plus bright qu'aujourd'hui. Voilà, c'est un truc d'espoir, c'est un truc de rythme, c'est un truc de percussion. Il y a ces voix qui, moi, me touchent de ouf dans la house, ce truc où t'as l'impression de revivre, quoi. Et en fait, même si t'es dans une soirée nulle, quand il y a le DJ ou la DJ qui la passe, tu dis « Ah, c'est sympa ».
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.